France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans tout ce que j'ai écrit, j'ai toujours eu l'impression de faire de la poésie, confia un jour Jean Cassou. Poète, donc, mais encore critique d'art, historien, romancier, résistant, conservateur en chef du musée d'art moderne de la ville de Paris qu'il dirigea pendant 20 ans, c'est une personnalité aujourd'hui un peu oubliée du monde des lettres et des arts français. Quelques mois avant sa mort, en 1985, lui qui avait alors près de 90 ans, se confiait dans une série de 5 entretiens au micro de l'écrivain et membre de l'Oulipo, Jacques Binns. Dans le quatrième volet, il était tout particulièrement question d'une notion qui était chère à Jean Cassou, celle de vocation. Il insistait, mordicus, pour faire remonter la naissance de la sienne à des temps immémoriaux et même à un état prénatal, ce qui n'était pas sans déconcerter quelque peu son interlocuteur. Jean Cassou ou la vocation d'écrire, quatrième volet d'une série de 5 émissions, diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 novembre 1985.
La vocation d'écrire. Entretien avec Jean Cassou par Jacques Binns. Réalisation Odile de Pontual. Collaboration technique Michel Galou, Jean Daniel et Pierre Guérineau.
Vous m'avez parlé un jour d'une chose que je trouve très, très intéressante et qui constitue à la fois une assez belle formule, c'est la fonction imaginante.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien oui, c'est la vocation. J'ai dans ma mémoire prénatale le souvenir extraordinairement obscur et rudimentaire d'un mouvement de conscience, prodigieusement mêlé de conscience, prodigieusement mêlé de matière physico-chimique et de mouvements cellulaires absolument élémentaires, j'ai le vague sentiment de ce moment, de cet instant de préconscience obscure où a commencé à se développer quelque chose qui est allé, ce développement après, au cours de ma croissance, d'écolier, mais de tout premier écolier, et qui était un besoin de curiosité, une grande curiosité qui s'est éveillée pour la création artistique, savoir pourquoi il y a des gens qui ont fait de la peinture, qui ont fait de la musique, et qui ont bâti des temples et des galeries princières et des maisons. Et parmi ces œuvres, eh bien, il y en a qui sont extraordinairement remarquables, extraordinairement impressionnantes, très réussies. Et l'esprit critique, tout de suite, est éveillé. Il sent une vocation. C'est essayer de comprendre comment ça s'est fait, tout ça. Et alors, pour comprendre cela et le faire comprendre, eh bien, il faut le configurer. Il faut en tracer le contour. C'est-à-dire qu'il faut le dessiner. Et en le dessinant, on le désigne. On dit, c'est comme ça. Le Parthénon, c'est comme ça. La Joconde, c'est comme ça. Voilà ce qui s'est fait. Voilà comment ça s'est fait. Et voilà ce que la pensée créatrice a fait, et voilà ce que notre pensée analyste peut faire là-dessus pour montrer ce que c'est. pour montrer quels sont les contours, les limites de cela, et par conséquent, le configurer, le schématiser, et dans cette forme schématique, produire un certain nombre d'observations qui sont le fruit de l'inquiétude, de la recherche et surtout de la curiosité. Tout ceci fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de passion et une grande volonté de clairvoyance. Bien. Seulement alors, tout ceci est du domaine de ce qu'on a appelé, selon un terme grec, l'esthétique. C'est ça l'esthétique. Les études esthétiques, c'est ça. C'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet opus qui a été fabriqué de cette façon. Et il faut savoir comment on a pratiqué cette façon de chercher ce que signifie et ce que représente l'opus. Et les différentes façons que l'on a d'accomplir un opus. Mais en même temps, le mot esthétique veut dire sensibilité en grec. Ça veut dire ça. De sorte que, non seulement il y a eu dans tout cela curiosité de l'intellect, curiosité critique, curiosité purement intellectuelle, abstraite, schématisante, mais il y a eu aussi intervention d'une autre forme de curiosité et qui est véritablement esthétique, c'est-à-dire qui a un caractère de recherche affective, de recherche sentimentale et de recherche sensible. L'œuvre d'art, non seulement elle m'intéresse parce que je veux savoir comment elle est faite, et pour ça je la dessine, j'étudie son dessin, j'étudie ses intentions théoriques et abstraites, mais en même temps j'éprouve devant elle un sentiment extrêmement étrange et dont l'origine remonte très loin et que je vais chercher très loin dans les profondeurs de mon esprit, y compris dans les profondeurs du subconscient prénatal. Et ça s'est développé alors d'une façon de plus en plus forte, de plus en plus, je ne dirais pas claire, mais enfin de plus en plus sensible, parce que cette recherche était elle-même une recherche de sensibilité. C'est que cette œuvre d'art que j'essaye de définir, comprenez ce que ça veut dire, de définir, de délimiter, et de définir dans son intimité personnelle et schématique, eh bien, elle m'oblige aussi à chercher ce qu'elle est dans un autre monde de connaissances, qui est un monde de connaissances sensibles. C'est qu'en même temps, cette œuvre d'art que j'essaye d'analyser, de schématiser, en même temps produit sur moi un effet affectif. C'est une œuvre sensible qui s'adresse à mes sens, à ma sensualité, et par là à mon sentiment. Alors, au bout d'un certain temps, quand je suis arrivé à un certain âge, tout ceci se fait de plus en plus fort en moi. Et j'ai toujours plus de goût pour ces phénomènes, pour ces réalités, pour la Joconde ou pour la Vénus de Milo, qui m'apportent non seulement des images que je cherche à dessiner, à expliquer par leurs limites, leurs aspects, leurs axes, leurs lignes, mais aussi que je cherche à situer par rapport à mon monde intérieur et à mon monde de rêverie. Je n'ai pas à me demander, mais quand est-ce que j'ai commencé à me dire, je veux devenir un poète ? Mais non, je l'étais. Il y a l'adage latin, vous le connaissez. On est poète et on devient orateur, c'est-à-dire analyste et critique de la poésie.
Oui, mais il y a quand même un moment où on décide d'écrire un article de critique artistique ou de commencer à écrire un roman. Là, quand même, c'est une décision qu'on prend tout seul, devant son papier.
Que l'on prend dans l'entraînement de l'atmosphère du temps et dans le climat.
Alors, comment est-ce qu'on se met
à
écrire ?
Dans le climat du temps.
Comment est-ce qu'on se met à écrire les harmonies viennoises ? Voilà.
Eh bien, je vous le dis, on se met à écrire les harmonies viennoises parce que ceci est le fruit d'une vocation ténébreusement ancienne.
C'est pas suffisant, comme explication.
Je ne peux pas vous dire.
Il y a quand même une idée qui arrive. Pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre ?
Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. La vocation est quelque chose de beaucoup plus complexe que tout cela. Et à l'origine, il y a cet état prénatal qui devient natal. On arrive, après toutes sortes de transformations bouleversantes et extraordinaires, et d'efforts cérébraux prodigieux, des cellules cérébrales et des cellules physico-chimiques qui nous composent. J'arrive à des âges un peu plus perspicaces, un peu plus clairvoyants, un peu plus conscients. L'âge de 2 ans. L'âge de 3 ans.
Non, je voudrais qu'on en vienne.
Mais non. Je ne vous dirai pas autre chose. C'est là que ça se produit.
Cette histoire plutôt que telle autre. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous choisissez d'écrire telle
histoire ou
telle autre ?
Je n'ai pas assez le sens
du divin, moi, pour accepter une réponse.
Non, c'est pas du tout divin. C'est au contraire matériel. C'est une nécessité. C'est nécessaire. Et ça sort d'un état où la matière et l'esprit sont confondus. Je suis profondément moniste. Je ne fais pas de distinction entre l'esprit et la matière. Il n'y a pas de bipolarité pour moi, mais il y a une unité. Et une unité qui apparaît dès le premier vagissement de la matière physico-chimique qui me fait. Par quoi est-ce que j'ai connaissance de la poésie ? Mais ma première connaissance de la poésie vient de ma première connaissance d'un objet créé par la poésie. Il faut que la cigale et la fourmi chantent en moi, et d'une certaine façon que j'ai envie d'examiner, pour savoir, mais comment est-ce que c'est fait ça ? Comment est-ce que c'est fait la cigale et la fourmi ? Alors, j'ai senti chez moi le besoin de faire de la poésie. Bien, faire de la poésie, ça veut dire quoi ? Faire des choses dans le genre de la cigale et la fourmi. À mon tour, de créer. De même que le peintre, ce qu'il veut, c'est faire de la peinture. Et le musicien, il veut faire un ensemble sonore, une suite sonore qui se développe dans le temps, comme le peintre fait quelque chose qui se développe dans l'espace. D'un côté, il y a un tableau, de l'autre côté, il y a une musique. Et en poésie, il y a la poésie, il y a le roman, il y a le récit, il y a le narré, il y a la narration. Il y a toutes sortes de développements qui sont donnés à ce génie premier qui est vocation.
Mais qu'est-ce qui vous donne l'idée de choisir un sujet plutôt qu'un autre ?
Mais je ne choisis pas un sujet. Ah ben c'est au Bachot qu'on choisit un sujet. C'est le type qui vous impose la copie de Bachot qui choisit un sujet. Mais moi, je ne choisis pas un sujet. Si. Je n'ai pas dit, vous allez écrire un roman qui se passera à Vienne, en telle année, et dans lequel vous allez mettre un personnage qui sera Schubert, un autre qui sera une jeune femme, une viennoise de ce moment-là, etc. Mais pas du tout. Ça, c'est aux critiques à faire ça après. Mmh. C'est aux critiques à analyser ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait,
ça,
je
l'ai
fait.
Ça, c'est quand même pas intra-utérin. Il y a un moment où fait. Ça s'est décidé.
Mais,
en vous.
Mais si... C'est intra-utérin, c'est intra-utérin, et ça porte toujours cette marque intra-utérine, ça la porte toujours, n'est-ce pas ? Il y a toujours cette origine nécessaire, n'est-ce pas ? Qui est un besoin créateur, et qui s'exprime alors dans un certain sens, par une vocation, parce que ce qui est singulier, tout à fait au début, dans l'époque de ce que vous appelez le choix, et que j'appelle moi vocation, c'est que j'ai envie d'appliquer ce besoin créateur que je sens en moi, de l'appliquer à la création d'œuvres se développant dans le temps, pas dans l'espace. Si c'était des œuvres qui doivent se développer dans l'espace, je serais peintre. Ce que je ne suis pas, et ce que je me suis toujours refusé d'être, ou pas, parce que je ne suis pas de ce pays-là. Je ne suis pas du pays de l'espace. Mais et c'est pour ça que d'ailleurs la peinture m'a toujours intéressé, parce que je me suis posé des questions au sujet de cette forme de création que je ne comprenais pas, et pour laquelle je n'avais aucune espèce de disposition. Mais alors, quand je voyais un être humain qui avait les dispositions de cette espèce, et qui, par exemple, s'appelait Matisse ou Braque, j'ai éprouvé un plaisir fou, m'entendez, un plaisir fou, à me trouver dans son atelier. Et cela m'impressionnait énormément d'être dans cet atelier où je voyais autour de lui des ébauches d'œuvres qui allaient se passer dans un monde qui m'était inconnu. Qu'allait se passer dans un monde qui n'était pas ma patrie. Parce que c'était le monde de l'espace. Parce que ça allait se développer dans l'espace et que je n'ai pas une très exacte connaissance de ce qui se passe dans l'espace. Mais j'ai connaissance de ce qui se passe dans le temps parce que mon pays, c'est le temps. Je suis du temps et non pas de l'espace. C'est-à-dire que je suis ou poète, ou romancier, ou musicien. C'est-à-dire que je me sens la vocation de développer mon imagination dans le sens du temps. Je suis temporel. Je suis temporel, je me pose toujours la question avant, pendant, après. D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça a été ? Pourquoi maintenant c'est ça ? Et qu'est-ce que ça va devenir ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, c'est là que nous pouvons préciser un peu la conscience que je prends de mon acte, qui n'est pas du tout choix. Mais non, ce n'est pas un choix, puisque je suis obligé, obligé de créer dans un certain sens, qui est le sens temporel, et pas du tout le sens spatial. Et que je suis profondément surpris devant des gens qui pensent d'une façon spatiale, comme Braque et comme Matisse. Je n'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. Et j'ai une énorme curiosité, une curiosité passionnée de ce qui se passe dans leur tête quand ils font des choses pareilles, qui me dépassent complètement.
C'était Jean Cassou ou la vocation d'écrire, quatrième volet d'une série de 5 entretiens menés par Jacques Binns, diffusé pour la première fois sur France Culture le 17 novembre 1985. À suivre.